bien ferme ce nouveau podcast que La Vie Agricole vient d'initier depuis quelques semaines. Et nous recevons aujourd'hui Pierre Pétel. Pierre Pétel, bonjour. Bonjour, vous êtes président directeur général de CropLife Canada, une association commerciale dans le secteur des sciences des plantes. Pouvez-vous nous expliquer, Pierre, quel est le type d'entreprise que vous présentez et quel est le rôle que CropLife joue dans la vie des producteurs?
Bonjour Yannick, merci de m'avoir aujourd'hui. Oui, en fait, CropLife Canada, c'est une entreprise qui représente les compagnies qui sont dans les intrants pour les producteurs. Alors, les semences et les produits pour protéger les cultures. C'est vraiment ces compagnies-là qui font partie de notre membership.
Puis si on parle d'actualité, notamment autour de l'actualité récente, début décembre, Grow Canada, en fait, on sait que l'agriculture est depuis longtemps une des industries les plus innovantes au monde, et c'est ce qui a été discuté dans le cadre des journées Grow Canada qui étaient soutenues, je pense, en partie à Ottawa. On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, de biotechnologie, on a parlé depuis plusieurs années d'agriculture de précision, donc on est vraiment dans une ère d'innovation. Quel est le bilan que vous faites, vous, de ces conférences qui ont eu lieu début décembre?
Alors, Grow Canada, c'est devenu l'événement phare de l'agriculture, du secteur agricole au Canada. Il y a 17 organisations nationales, dont CropLife Canada, qui font partie du regroupement. Et c'est vraiment une célébration de l'agriculture. Et cette année, le thème était « Cultiver l'innovation ». Alors, nous avons reçu des conférenciers de haut calibre, chacun avec son propre parcours, incluant l'intelligence artificielle, l'innovation, la communication avec le public, l'analyse de la situation politique aux États-Unis, par exemple. Alors, c'était plusieurs sujets, mais ce que je retiens de la conférence, c'est que si on arrête d'innover, on prend du retard avec la compétition. Et aussi, un point important qui est ressorti à plusieurs reprises, c'était que le fardeau réglementaire peut avoir un impact important sur l'innovation. On a entendu ça du secteur du financement, du secteur des intrants et même du point de vue des producteurs eux-mêmes. Alors, c'est s'assurer que ce fardeau réglementaire-là est connu par les gouvernements aussi, que les décideurs soient au courant aussi que c'est la réalité.
Mais Pierre Pétel, en fait, lorsqu'on parle effectivement d'innovation, oui, j'entends bien, les décideurs, les agriculteurs souvent sont très, très, très en phase avec cette innovation. On sent parfois une population qui est en résistance par rapport à l'innovation, par rapport au changement. Comment vous pouvez faire dans votre rôle, en fait, de CropLife pour éduquer la population au changement?
Effectivement, les agriculteurs, eux, puis nous aussi, on sait que la plupart des politiciens, le gros nombre des politiciens et des fonctionnaires ne connaissent pas beaucoup sur la réalité du terrain. Et puis, nous, notre rôle, vraiment, c'est d'agir comme un pont entre les agriculteurs et les décideurs pour que les décisions qui sont prises à Ottawa ou à Québec soient des décisions basées sur la science et qui prennent les faits, les réalités du secteur agricole en considération. Un élu du centre-ville de Toronto ou de Montréal n'est pas généralement très proche de la réalité en agriculture. J'ai déjà rencontré plusieurs députés au cours des années qui n'avaient jamais mis pied sur une ferme et qui parlaient d'un jardin communautaire comme si c'était la même chose que l'agriculture. Alors,
donc il faudrait trouver un moyen pour amener ces décideurs ou ces politiciens en fait directement sur le terrain, en fait, dans des fermes, pour qu'ils voient concrètement ce qu'est l'agriculture aujourd'hui.
Oui, puis l'alternative de ça, c'est que de amener les producteurs à eux. Alors, il y a plusieurs groupes à Ottawa ici basés, les groupes de producteurs en canola, en soya, en maïs, qui font ce travail-là, qui amènent les producteurs directement ici à Ottawa pour parler à ces gens-là, pour leur expliquer la réalité sur le terrain, pour qu'ils comprennent que leurs décisions ont un impact très important sur la ferme.
Alors Pierre, j'aimerais ça aussi qu'on parle de la COP29, parce que nous, on a Guy de Bailleul, qui est coprésident de l'Institut Jean Garon, qui est une OBNL qui collabore beaucoup avec la vie agricole, et qui a publié une chronique récemment sur notre site, dans laquelle Guy de Bailleul disait « On ne s'attendait pas à ce que l'agriculture et l'alimentation soient au centre des négociations formelles de la COP29 à Bakou, ou même que ces sujets y occupent une place significative, et ce fut pourtant le cas. » Et on sait aussi que l'agriculture a été très on a centralisé beaucoup les discussions sur l'agriculture à la COP16 à Cali. Alors pourquoi tout d'un coup l'agriculture se retrouve dans ces événements?
Oui, en fait, l'agriculture est devenue de plus en plus importante au COP. Non seulement la COP climatique, mais la COP, comme vous avez mentionné, à Cali, sur la biodiversité dans les dernières années. Et puis, c'est pas toujours l'agriculture comme une solution, mais vraiment comme un problème à gérer. Alors, les groupes agricoles ont commencé à y participer en plus grand nombre, incluant des délégations importantes du Canada. C'est clair que l'agriculture émet des gaz à effet de serre. Ça, c'est un fait incontournable. Mais comment faire pour réduire ça d'une façon raisonnable, en même temps considérer l'alimentation et la sécurité alimentaire pour le monde? Alors, c'est vraiment ça le débat, la discussion qui se passe au COP, mais même chose, beaucoup de ces gens-là, ces gens qui participent au COP, ils ne se connaissent pas beaucoup en agriculture, ils ne comprennent pas les techniques comme le semi-direct, le travail de sol sans labour, qui permet à réduire l'émission des gaz à effet de serre, et puis qui réduisent l'érosion du sol. Ils comprennent pas nécessairement que ces technologies-là ont besoin de produits comme les herbicides ou des produits issus génétiques pour qu'ils fonctionnent. Alors, le travail des agriculteurs et des groupes agricoles qui participent au COP, c'est vraiment d'expliquer qu'il y a différentes façons de produire et qu'il y a peut-être des façons que ces gens-là ne sont pas au courant.
Alors, on en revient effectivement au rôle pédagogique que vous avez et que l'ensemble des décideurs vont avoir envers la population. Mais justement, dans les derniers forums internationaux, on parlait des COP, mais on peut parler aussi du sommet du G20. En novembre dernier, il y a une déclaration commune qui a été conclue, en fait, et qui demande aux États d'améliorer la productivité des systèmes alimentaires et de réduire les pertes. Est-ce que vous diriez, vous, que le Québec et le Canada sont bien placés pour répondre à cet appel international?
En fait, les pays du G20 reconnaissent que la productivité agricole est un moyen de lutter contre la pauvreté et protéger la biodiversité en même temps. Mais on sait que dans plusieurs parties du monde que ils n'ont pas la capacité de se nourrir. Alors, le Canada joue un rôle très important. On exporte des aliments à plus de 130 pays partout au monde. Alors, c'est de s'assurer que le concept de productivité, de produire plus sur la même parcelle de terre, est un facteur très important et que pour avoir cette productivité-là, c'est nécessaire d'avoir l'innovation scientifique dans les cultures et dans la protection des cultures pour s'assurer que on puisse protéger les terres qui sont présentement pas en agriculture. Alors, c'est un peu ça le focus pour le Canada. C'est un grand exportateur. On a aussi des agriculteurs qui sont en chef de file pour l'adoption des nouvelles technologies, nouvelles innovations. Alors, c'est de s'assurer que les autres pays nous donne la chance de produire, d'exporter et que de nourrir la planète, en fait. C'est le rôle que le Canada joue.
Alors, s'il faut nourrir la planète, parce que le Canada est en partie le grenier du monde, on doit cultiver plus, possiblement peut-être élever moins, mais en tout cas cultiver plus. Et quel rôle, dans ce cas-là, doivent avoir les pesticides et le fameux CRISPR, le génie génétique, le génomique, alors qu'on sait que la population a des résistances, mais quel rôle vous voyez-vous pour les pesticides?
Mais les pesticides permettent de limiter les pertes. Alors, si on n'utilisait pas de pesticides, les mêmes terres agricoles produiraient beaucoup moins d'alimentation. Alors, c'est clair qu'ils jouent un rôle, c'est de s'assurer qu'ils sont utilisés d'une façon sain, sauf que qu'on utilise juste le montant qu'on a de besoin. Alors, il y a eu beaucoup d'avancements dans l'utilisation des pesticides. On utilise beaucoup moins par hectare qu'on utilisait auparavant. Il y a maintenant l'application de précision qui arrive, qui détermine, qui peut même cibler juste les plantes problématiques et non les autres. Alors, la technologie avance à chaque année. Et puis, ça va réduire l'impact environnemental de ces produits-là. L'autre aspect, c'est l'édition génique, le génie génétique. Ça fait longtemps qu'on l'utilise. Les humains ont toujours sélectionné des traits génétiques qu'on voulait en agriculture. Mais maintenant, on peut faire ça plus rapidement, avec beaucoup plus de précision. Alors, pour en arriver à des cultures qui répondent aux besoins nutritifs des humains et, en même temps, peut-être aider avec le changement climatique en capturant plus de carbone, etc. Alors, il y a beaucoup d'avancements dans la modification génétique, édition génique qui s'en vient, qui est déjà ici en place, mais qui s'en vient, qui peut répondre à beaucoup de besoins dans l'alimentation la sécurité alimentaire et les changements climatiques.
Alors, effectivement, d'ailleurs, concernant les pesticides, l'Institut Jean Garon disait déjà en 2017 dans un rapport qu'il fallait considérer les pesticides comme un médicament, de la même façon que pour l'humain, utiliser des médicaments, il fallait que les champs aient leurs propres médicaments. Alors, c'est une version, en fait, de l'approche des pesticides que j'imagine vous validez. Mais on voyait récemment, on rencontrait Bill Wiltz, que vous avez vu, en fait, qui faisait partie de Gros Canada, qui était un des invités. Nous, on l'a rencontré à Montréal lors de son passage. Et en discutant avec lui, là, on parlait de la problématique qu'il y avait en Europe, puis du rejet en général de la science nouvelle par les écologistes, par la gauche. Et en fait, on voyait que ce n'était pas encore acquis, d'abord l'acceptation des pesticides, l'acceptation du génie génétique. Comment on peut se prémunir de ça si nécessaire?
Mais en fait, c'est ça, l'échec de leur stratégie en Europe, c'est la conséquence de 30 ans de gouvernance influencée par les militants anti-science et anti-agriculture moderne. Et puis au Québec, il faut que les gouvernements soient à l'écoute des agriculteurs, sinon on va frapper le même mur. Et puis on sait qu'en parlant aux agriculteurs, ils disent qu'il y a un fardeau réglementaire très lourd. On n'a pas accès aux mêmes outils que nos concurrents. On a des pertes encore dans nos champs. Alors, il faut que les gouvernements, incluant le gouvernement du Québec, répondent mieux aux besoins des producteurs.
Et peut-être pour terminer, Pierre Pétel, en fait, moi, dans les derniers mois, j'ai suivi plusieurs revues de presse sur l'agriculture, l'agroalimentaire. J'ai vu que vous aviez été ciblé, quand je dis vous, CropLife, mais même vous, Pierre Pétel, des fois directement, par des groupes anti-pesticides, anti-OGM. Qu'est-ce que vous avez d'abord à leur dire et comment vous expliquez aussi le rôle que vous jouez dans la protection des cultures, le rôle que vous jouez dans l'alimentation du Québec et du monde, alors que vous êtes ciblé en fait comme étant un ennemi de ces groupes en fait?
Oui, ben pour nous, c'est pas compliqué. Notre objectif, c'est vraiment que nos agriculteurs aient les outils nécessaires pour bien nourrir les Québécois, les Canadiens et le reste du monde, et d'une façon durable pour que les générations à venir aient aussi la même opportunité. Je pense que si on parle aux Québécois qui sont fiers de manger de la nourriture locale, mais comprennent aussi qu'il y a des pressions, des ravageurs importants, et que les agriculteurs ont besoin des outils pour protéger leur culture. Alors, pour le consommateur, c'est simple aussi. Si on aide les agriculteurs à être compétitifs, si on leur donne des meilleures plantes et si on protège mieux leur récolte, ça rend la nourriture d'ici plus abordable en bout de ligne. Les groupes dont vous parlez, c'est pas des groupes qui amènent des solutions. Leur objectif principal, c'est de créer la méfiance et la peur pour encourager les dons. Il y a plusieurs exemples de ça. On voit récemment un additif alimentaire pour le bétail qui réduit d'un coup la production de méthane mais les groupes de pression, c'est les mêmes groupes qui mettent l'agriculture sur le banc des accusés pour les changements climatiques, mm-hmm. en passant, s'opposent à ces produits-là et créent la peur ils vont probablement réussir à prévenir que ce produit-là soit bien adopté, malgré les revues scientifiques et l'approbation par plusieurs instances réglementaires, incluant le Canada. Alors, c'est ces groupes de pression-là qui font des choses comme ça incompréhensibles et parfois immorales, en mon opinion, qui sont à la base de ce que vous parlez.
Alors, merci beaucoup, Pierre Pétel. C'était le président directeur général de CropLife pour en apprendre un petit peu plus sur l'évolution de l'agriculture au Canada et dans le monde. Et pour en apprendre toujours plus sur l'agriculture, vous écoutez Parlons Ferme. Merci.